Alors, je m'excuse pour les membres de l'équipe qui sont présents et qui connaissent par cœur cette présentation. On essaie toujours un peu de varier, etc. Mais le but, c'est vraiment de vous présenter ce projet qui nous occupe avec Luc depuis 3 ans, jour et nuit, en fait. Alors, ce projet, donc, qui est consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976, donc en France, depuis 1976 et jusqu'à aujourd'hui, et un projet qui était d'une envergure assez ambitieuse pour 3 raisons. Tout d'abord parce que le punk est, Monsieur Santini l'a rappelé, un objet assez illégitime, que ça soit dans la société où le punk c'est celui qui a une crête qui est devant la chapelle et qui mendie, et aussi, alors peut-être encore plus dans nos institutions où le punk ne mérite même pas d'être évoqué parce que c'est vraiment le summum de l'illégitimité de la musique. Donc notre projet, son premier objet, a vraiment pour but de franchir une étape dans ce lent processus de légitimation des formes populaires de la culture en rendant l'objet visible et légitime, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est ce qu'on a fait pendant toutes les journées et rencontres depuis 2 ans. Deuxième ambition du projet et qui nous touchait, c'est que le punk est un objet vulnérable parce que les acteurs du début s'éteignent doucement à cause du mode de vie compliqué, parce que c'est quand même un milieu assez fragile. Et donc, il y avait une urgence à collecter cette archive parce qu'en gros, un punk qui meurt, ben, c'est sa bibliothèque qui disparaît, hein, comme dirait l'autre. Et les familles mettent les archives à la benne sans se rendre compte de ce que c'est. Et si on n'attrape pas les archives maintenant, on pourra, dans 10 ans, cette mémoire-là sera perdue. Donc on est très sensible dans l'équipe à ce caractère d'urgence pour faire surgir la mémoire tout de suite. Et ça, c'est ce qui nous occupe en tant que chercheurs, c'est relever le défi de la préservation, voire de la patrimonialisation, je vais me faire crier dessus, je pense par Patrick encore, du punk en France, en s'appuyant sur un travail collaboratif entre acteurs et chercheurs. Et Luc l'a rappelé, c'est vraiment une force de notre projet, c'est d'être capable, on fait un vrai effort, et c'est pas facile toujours dans notre communauté, de réunir à la fois des chercheurs, des universitaires, mais aussi des journalistes, des artistes, et puis des personnes issues de la société civile qui ont un rapport avec le punk. Et troisième propos, c'est que le punk est un objet problématique parce que c'est quelque chose qui a horreur d'être défini. Et pourtant, nous, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'est le punk. Et c'est un objet qui, de l'extérieur, peut paraître incohérent, alors qu'en réalité, il y a des grandes formes de cohérence, surtout sur 40 ans. Et c'est ça qu'on cherche à expliquer.
Alors, on est parti de trois hypothèses, enfin trois grandes questions de recherche qui étaient d'ailleurs autant de paradoxes en fait qui nous intéressaient. Alors il y a le paradoxe du temps, c'est-à-dire en fait de la chronologie de cette histoire, de sa périodisation, voire de la définition du temps, c'est-à-dire au fond quel est ce mouvement qui posait au départ son absence d'avenir, hein, absence de futur, no future, et qui 40 ans après est toujours là. Alors certes sous d'autres formes, qui s'est réinventée, et on peut discuter des légitimités justement de ces générations du punk, mais nous, en tant que scientifiques, on considère qu'il y a 40 ans de punk. Donc on est parti de ce premier paradoxe. Il y a beaucoup de pistes et de chantiers autour de cette question. Le deuxième chantier, c'est l'espace, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire les formes de territorialisation, et aujourd'hui, c'est une des problématiques. Hein, c'est-à-dire que le punk, est-ce que si on considère Paris par exemple, mais ça, le problème peut se poser pour toutes les grandes villes, toutes les zones, est-ce que le punk c'est simplement ce qui s'est passé intramuros autour des Halles par exemple, ou est-ce que on doit regarder de l'autre côté du périph, monsieur le maire l'a rappelé, des lieux comme le Fahrenheit, des lieux comme voilà, la ville d'ici, les Moulineaux, et bien d'autres, on a montré Montreuil, Sarcelles, etc. Regardez au fond comment ce mouvement se territorialise, qu'est-ce qu'on fait intramuros au-delà du périph, quels sont les rapports finalement entre centre et périphérie. C'est une des problématiques, il y en a d'autres sur l'espace par exemple, si on regarde ce qu'est la scène punk en France, je l'ai dit, est-ce que c'est une simple copie de ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'il y a des transferts culturels ou des contre-transferts, est-ce que les groupes français ont pu éventuellement influencer ce qui se passait en Angleterre par exemple, est-ce qu'il y a des liens, voilà. Et on s'intéresse aussi à la circulation des acteurs. Il y a manifestement dans cette histoire des passeurs culturels, hein, des gens qui sont venus de certaines villes, qui ont diffusé cette culture, cette musique dans d'autres villes, bon, etc., etc. Vous l'avez compris, cette dimension de l'espace, de la géographie du punk, d'une certaine manière, est fondamentale. Et la troisième question qui nous intéressait, c'était ce qu'on a appelé la cohérence paradigmatique, c'est-à-dire que ce mouvement kaléidoscopique, volontiers anarchique. Quand on regarde bien, on voit qu'il y a des grands moments de cohérence, de convergence. Et on a voulu regarder un petit peu comment tout cela s'organisait, à la fois musicalement, de manière vestimentaire, look, etc. Regarde, artistique, esthétique visuelle. Le 30 septembre, on avait une journée d'études dans le 18e sur ces questions d'esthétique. Donc, regardez comment, finalement, génération par génération, se définissent des codes musicaux, esthétiques, etc. Donc, il y a une forme, sans doute, de cohérence à observer.
Alors, notre projet, il est réparti, parce qu'il faut tout catégoriser, en 8 grands chantiers de recherche auxquels répondent partiellement ou totalement nos journées d'études comme aujourd'hui, sachant que tous ces chantiers sont considérés non pas du tout comme séparés, mais entièrement interopérables. Le premier, c'est l'historicité et la généalogie. Luc en a parlé. L'idée, c'est que le punk naît quelque part vers 76. Il faut aussi trouver des dates pour commencer. Alors, 76, c'est commode. Et se réinvente. On a mis très vite pour illustrer 3 grandes générations. Et donc, tout le travail va être de savoir est-ce qu'il y a, par exemple, une spécificité sonore à chaque génération de punk. Que deviennent ces punks? Quelle mémoire ils ont, etc. Le deuxième chantier qui est lié à celui-ci, c'est celui du vieillissement et de la mémoire, parce que les punks, ils vieillissent dans le punk, mais pas forcément. Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment on fait aujourd'hui quand on a 55 ans pour vieillir dans le punk? Et aussi la problématique de toute cette jeune scène, donc à contrario du vieillissement punk, que capte très bien notre photographe Surinsky, qui d'ailleurs fait une expo aussi dans l'autre espace, à l'espace Icar. Donc voilà, toute cette problématique du vieillissement et de la mémoire. Le troisième chantier, c'est ce qu'on a appelé médiation et médiatisation. Donc là, en fait, c'est comment les médias s'emparent du phénomène, qu'est-ce qu'elles en font. Alors, comme souvent avec les contre-cultures, elles se rendent compte qu'il y a du punk, elles le portent au nu, et puis quelques années plus tard, elles le mettent à la benne, et en réinventant autre chose. Donc tout ce travail fin autour de la presse, mais ça peut être aussi autour des archives audiovisuelles, de la radio, etc., est très très important dans le cadre de ce projet.
Alors, homologie musicale, esthétique et artistique, c'est ce que j'évoquais sur le troisième chantier tout à l'heure, c'est-à-dire regarder un petit peu comment on s'organise dans le temps des formes de cohérence, autrement dit comment les codes musicaux répondent à des codes esthétiques et artistiques et créent une forme de cohérence à un moment donné dans le temps. On a tous l'image du punk à crête, du cuir clouté, etc., mais qui n'existe pas en 77 par exemple. En 77, c'est cheveux ébouriffés, épingle à nourrice, un certain type de son, etc. Donc regardez comment il y a des formes de correspondance sur ces codes musicaux, artistiques, esthétiques, visuels. Et textuel aussi, on n'en a pas parlé. Alors, la violence de la scène punk, je vais très rapidement, mais on a cette représentation dans la société du punk violent. Alors, faut questionner, véritablement. D'abord, dire de quelle forme de violence on parle, et puis questionner cette violence. Est-elle réelle, fantasmée? Est-elle construite, par les médias notamment? Et puis, si on va, je donne quelques exemples rapides, si on va regarder les pratiques elles-mêmes, quand on parle de pogo, elle pogote ma banlieue, mais qu'est-ce que c'est un pogo? Est-ce que c'est quelque chose de violent, brutal, sans règles? Ou est-ce qu'au contraire, on n'est pas là face à une manifestation qui, finalement, quand on y regarde bien, a ses propres règles, et finalement un lieu de socialisation comme un autre. Le corps, autre enjeu essentiel, qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que le corps punk? On travaille donc sur, là encore, toute dimension, forme esthétique, visuelle, tatouage, mais aussi manière de bouger, manière d'être sur scène, manière d'être punk, de le vivre corporellement. Voilà. Le punk et les questions très discutées dans l'actualité également, mais la question du genre, c'est-à-dire les rapports entre les femmes et les hommes, notamment la construction des masculinités, des féminités. Est-ce que le punk échappe à l'ordre patriarcal, par exemple, ou formes de domination qui sont dénoncées par ailleurs dans la société, ou est-ce qu'il reproduit d'une certaine manière cela? Est-ce que ce mouvement libertaire n'est pas, c'est une vraie question, je le dis de manière un peu provocante, n'a pas lui aussi une manière de recomposer des formes de domination, etc.? On peut regarder, par exemple, où sont les filles sur cette scène, qui reste quand même globalement une affaire de mecs, faut quand même le dire. Donc ça interroge vraiment. La cartographie de la scène punk, c'est regarder justement ces géographies du punk. Alors là, plus spécifiquement, la diffusion de cette culture, la circulation des acteurs, mais au-delà de l'hexagone, hein, les relations que cette scène entretient avec les trans. Et aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, on a un chantier pour essayer de voir comment cette scène punk en France a été perçue depuis l'étranger. Quelles sont les représentations qu'on a construites depuis l'Angleterre, par exemple, sur le punk en France? Quels étaient les liens? Je l'ai déjà dit. Hein. On sait qu'il y a des groupes comme Metal Urbain qui ont été signés en Angleterre. Donc, il y a de la circulation. Ce n'est pas immobile. Parler de la France, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder au-delà des frontières. Hein. Loin de là, au contraire.
Alors, Luc l'a rappelé, le noyau dur de notre projet, c'est l'organisation de journées d'études ou de rencontres avec à la fois, on a toujours des communications type scientifique comme ce matin, et puis aussi des tables rondes pour faire intervenir les acteurs. Là, c'est la 15e. Alors au début, quand on n'avait pas d'argent, pas de contrat, on organisait ça à Paris. Maintenant qu'on a un petit contrat de recherche grâce à l'Agence nationale de la recherche, on s'est mis à partir en tournée et à aller dans un certain nombre de villes en fonction de nos relais, de nos réseaux. Donc on a fait Toulouse, on a fait Montaigu en Vendée, on a fait Caen et l'année prochaine on fera Rouen, Nantes, Rennes, Bordeaux, Val d'Ajol. Et Lyon, voilà.
Juste, je précise, le 9 décembre, la prochaine journée d'études est à Rennes, dans le cadre des Transmusicales de Rennes, qui est quand même le gros festival d'hiver en France, et on est inclus dans la programmation hein, des Transmusicales de Rennes, ce qui est aussi une forme de reconnaissance. Voilà, hein, donc je souhaitais le souligner.
Alors notre équipe, ben, au début on était deux, maintenant on est on va dire 31 dans le noyau dur et puis même 51 élargis, donc on est très nombreux. On vient de beaucoup de disciplines différentes, mais c'était la seule solution pour arriver, parce que le punk, ça, c'est pas que musical, c'est pas que littéraire, c'est pas que anthropologique, etc. Donc l'idée c'était d'être une équipe de chercheurs venus de différentes disciplines et d'apporter à l'équipe les méthodes qu'on a qui sont différentes, nos sensibilités, parce qu'un anthropologue regarde pas les mêmes choses du musicien qui joue qu'un musicologue ou un historien. Et puis bien sûr tous les acteurs de la scène, les plasticiens qui nous rendent, enfin qui viennent, qui participent et qui ont un autre regard. Également nos photographes, Muriel et Sioux. Et puis toute notre Dominique qui fait le son et qui permet à toutes ces journées d'être captées et rediffusées sur le site internet. Voilà, donc on est une grande équipe et on est amené, je pense, encore à s'agrandir. Donc ça c'est pour le volet institutionnel. Le projet est financé par l'Agence nationale de la recherche jusqu'en 2020. Et nos partenaires pour l'instant, donc on a l'École nationale des chartes pour tout le côté patrimonial et archives, la Cité de la musique, Philharmonie de Paris, qui a un lien d'origine avec nous et qui nous accueille pour des plus grosses rencontres, la Fanzinothèque de Poitiers, qui vient souvent parler et puis qui cherche à abonder en faisant des recherches en fonction des thématiques de nos différentes rencontres, FGO Barbara, où nous organisons à Paris nos rencontres, et le ministère de la Culture via la mission des archives du ministère de la Culture, dont le conservateur nous a beaucoup aidé pour lancer le volet archives du projet.
Il fait partie de notre équipe.
Alors justement, en parlant d'archives, l'autre objectif du projet consiste à collecter de l'archive. Comme vous voyez, donc on fait ça un peu à la punk. Monique et Dominique, par exemple, nous ont amené toutes les archives de Radio Éphémère, qui est une radio libre toulousaine. Il y avait 35 ans d'archives. On les trie, on les reconditionne, on les inventorie, et l'idée étant de faire un jour un portail à la fois physique et aussi dématérialisé, donc numérique, pour que tout le monde puisse avoir accès à cette archive, et donc aussi, enfin, ça participe de volonté de diffuser clairement cette culture-là.
Alors, une base de données collaboratives, c'est un outil absolument essentiel que nous sommes en train de finaliser, enfin qui est quasiment disponible maintenant. Cette base de données doit nous permettre de collecter des données. Alors, je dis collaborative parce que la dimension essentielle, c'est que on va pouvoir faire appel justement, notamment, à la scène punk en France, à tous les acteurs qui seront nos partenaires d'une certaine manière à partir de cette base, pour pouvoir rentrer des données sur les groupes, sur les musiciens, sur les événements, sur les œuvres, etc. Et donc cette base de données désormais est en ligne. Voilà. Donc tu veux donner quelques détails de plus? C'est vraiment un outil essentiel. On aura l'occasion d'en reparler.
Alors donc parmi le projet, vous le voyez là, c'est l'expo que Sioux nous avait organisé l'an dernier. On fait aussi des expositions qui servent à montrer en fait quelles peuvent être la réalité de la scène punk. Et également tout un tas de, je sais pas comment appeler ça, de performances. Là, c'est un de nos chercheurs qui est spécialiste de fanzines, qui avait fait un mur de fanzines à la médiathèque de Caen dans le cadre d'une de nos journées. Ou alors derrière, là, vous voyez des plasticiens qui sont en train de peindre en même temps qu'il y a des communications scientifiques devant. Et ça, c'était une journée d'études qui était consacrée aux cultures visuelles et esthétiques du punk. Voilà. Donc, et puis, bon, on fait de la musique aussi, souvent. Voilà. Alors pour conclure, peindre c'est quoi ? C'est un projet essentiel, non pas parce que nous l'avons créé, mais parce qu'il est vraiment essentiel.
C'est un projet essentiel par son objet. Le punk, étincelle de vie musicale, faite d'énergie et d'insolence, saisie aux marges et au cœur de notre monde.
Un projet qui permet d'espérer mettre en lumière et valoriser une création musicale et artistique en résistance, une culture de l'urgence d'agir, forte d'inventivité et de débrouillardise, nourrie des postures politiques, des mots et des hymnes qui ont accompagné et accompagnent encore nos parcours de vie.
C'est un projet essentiel par sa dimension humaine, par les contacts et réseaux scientifiques, professionnels, artistiques, musicaux qui se sont constitués autour d'eux et à travers Pinte, et que nous continuerons à défendre et développer coûte que coûte.
C'est un projet essentiel car nous sommes vraiment conscients des enjeux sociétaux qu'il véhicule. En portant ce projet, qui du point de vue académique notamment peut encore aujourd'hui paraître subversif, nous entendons mobiliser un prisme décisif dans la compréhension de la société contemporaine, de ses marges et des dynamiques de résistance qui la structurent.
Nous voulons, à travers le regard que la recherche peut porter sur le punk en France, éclairer le sens que les acteurs de cette scène donnent à leur place et à leur choix, confrontés aux défis de la réécriture du monde.
C'est un projet essentiel enfin parce que nous y croyons et que vous êtes là pour nous accompagner dans cette aventure. Et on va pouvoir céder la parole à notre première intervenante de la matinée. Merci beaucoup. Merci. Alors j'appelle à la barre Flavien.